Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Avec moi ce soir, Yubi Surianto, on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, samedi. Il est 3h du matin du temps à Jakarta. Ces auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journaux, suivi la revue de presse. Aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point. Et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission la rubrique distraction, c'est-à-dire le magazine musical indonésienne. Ces auditeurs et auditrices, voici le bulletin d'information.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Chers auditeurs et auditrices, voici le bulletin d'information et le titre. Le ministre des Affaires étrangères de Luxembourg se rendra en Indonésie. 17 citoyens indonésiens à Marawi est en bon état. Voici le bulletin complet. Le ministre des Affaires étrangères de Luxembourg, Jean Hasselborn, se rendra en Indonésie le 29 et 30 mai 2017. Le ministre des Affaires étrangères de Luxembourg a prévu de tenir une réunion bilatérale avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, le mardi 30 mai 2017. La relation entre l'Indonésie et Luxembourg est assez intensive dans les domaines des finances et de l'investissement. Le directeur européen du ministère des Affaires étrangères, Erdino Kusnadi, a dit que la réunion discuterait des questions relatives aux questions bilatérales, régionales et internationales. Dans une conférence de presse vendredi, le 26 mai, Dino a expliqué que le Luxembourg était l'un des centres financiers du monde. En effet, les deux ministères des Affaires étrangères discuteront de la coopération de la banque et d'investissement de l'Indonésie au Luxembourg. Ils ont également discuté de la coopération dans d'autres domaines.
Topik-topik lain memang yang ada di dalam agenda antara lain kerjasama air transport kedua negara.
D'autres sujets qui deviennent l'ordre du jour sont entre autres la coopération de transport entre les deux pays, la coopération dans le domaine des satellites et des télécommunications qui fait Luxembourg à des bons progrès en termes d'enregistrement de l'emplacement des satellites dans le monde, ainsi que la technologie satellitaire appartenant à Luxembourg. Dino Kusnadi a expliqué d'autres choses discutées étaient des finances à l'Union européenne et le développement des 50 ans de l'ASEAN ainsi que divers autres développements régionaux. Le Luxembourg était très enthousiaste à l'amélioration des relations bilatérales avec l'Indonésie et vice-versa. L'Indonésie pourrait aussi gagner beaucoup d'avantages en termes de services bancaires et financiers. Au cours de la visite, le ministre Hasselborn sera accompagné des directeurs politiques, des personnels de la direction politique et des fonctionnaires du ministère des responsables politiques des affaires étrangères et de l'ambassade de Luxembourg en Indonésie qui est siégée à Bangkok. Le 23 et 24 mai, il y a eu les affrontements armés à Marawi, aux Philippines. Cette condition a été fixée comme loi martiale. Dans une conférence de presse tenue vendredi le 26 mai au ministère des affaires étrangères, le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Armanata, a confirmé que 17 citoyens indonésiens à Marawi étaient en bon état.
Kondisi WNI pas malam setelah komunikasi dengan konsul.
Les conditions des citoyens indonésiens sont bonnes après la communication avec le consul général à Davao. Ils sont en bon état. Ils vivent dans un endroit près de la station de police locale. Ils disent aussi qu'ils suivent les règles là-bas, à savoir l'interdiction de quitter à certaines heures. Arbanata a expliqué plus loin, le consul général indonésien à Davao a également déclaré ce qu'il voulait être évacué. Cependant, les 17 citoyens indonésiens ont refusé d'être évacués. La communication avec le consul général indonésien à Davao et aussi les citoyens indonésiens à Marawi se déroule bien. Le gouvernement indonésien a demandé au PDG des entreprises suisses d'augmenter les investissements et d'avoir le partenariat avec les rooms d'affaires indonésiens. Jusqu'à présent, les industries suisses qui ont existé en Indonésie sont entre autres les secteurs pharmaceutiques et cosmétiques, les produits laitiers, les aliments et les boissons ainsi que des machines. Le ministre de l'Industrie, Erlangga Hartarto, dans son communiqué de presse, a annoncé jeudi que sa partie avait demandé pour qu'il continue de se développer, parce que cela est en ligne avec la publication du paquet de politique économique de l'Indonésie qui peut le rendre plus facile à gérer une entreprise. Il a déclaré que le gouvernement indonésien avait rencontré le PDG des entreprises suisses il y a quelque temps. À cette réunion, les deux parties ont discuté des efforts pour éliminer les obstacles des quotas réglementaires ainsi que la production de chaque secteur industriel. L'événement Bali and Beyond Travel Fair, ou BBTF, qui a été initié par l'Association des agents de voyage et de tourisme ACITA, aura lieu de 7 au 11 juin 2017 et sera suivi par 255 acheteurs de 53 pays et 160 vendeurs de plusieurs régions indonésiennes, l'une d'elles est Bali. Le chef d'ACITA de Bali, Iketut Ardana, a admis qu'il y a une augmentation du nombre d'acheteurs qui ont assisté à BBTF 2017. L'année dernière, les acheteurs qui viennent proviennent seulement de 30 pays. Iketut Ardana espère que BBTF cette année sera suivi par de nombreux acheteurs des pays de la région de Moyen-Orient. Le dernier, la conférence internationale sur le tourisme de Manado, tenue du 22 au 24 mai, est en mesure de générer des transactions commerciales d'une valeur de 400 millions de dollars américains, soit l'équivalent 5,2 trillions roupias. Cette coopération est liée au développement au sud de Manado pour les hôtels, les appartements, les centres commerciaux et tant de centres plongés d'une valeur de 200 millions de dollars américains. Le chef de conseil de coordination des investissements, Thomas Lebon, a annoncé l'arco d'affaires généré est une preuve concrète d'activer l'investissement dans le secteur du tourisme en Indonésie. C'est ce jour de 10, c'était notre journal aujourd'hui. Chers amis, nous continuons notre émission avec la revue de Brest. Nous commençons avec l'éditorial du journal Média Indonésien mardi, le 23 mai, ayant pour titre Les investissements pour la prospérité. Les bonnes nouvelles sont venues du secteur économique malgré les conditions sociales et politiques qui hantaient encore l'Indonésie. L'Indonésie a reçu une prédicat comme pays digne d'investissement par l'agence de notation internationale Standard & Poor's. Maintenant, il est légitime pour l'Indonésie de détenir un titre digne d'investissement. Auparavant, deux des trois agences de notation internationale qui contrôlent la majeure partie de la part de marché, à savoir Moody's et Fitch Ratings, ont également fixé le statut de digne d'investissement pour l'Indonésie. Le plus récent label de l'Indonésie, attribué par Standard & Poor's, est clairement un catalyseur positif pour les marchés financiers de l'Indonésie. Le classement aura un impact positif, en particulier pour les pays en développement comme l'Indonésie. Les opportunités seront plus importantes pour l'Indonésie afin d'élargir la confiance des investisseurs en considérant le pays comme un pays confortable d'investissement. Ensuite, l'éditorial du journal Compass, dans son éditorial mercredi, le 24 mai, a écrit « L'importance de la stratégie culturelle ». L'étude sur l'importance de la stratégie culturelle doit être soulevée de nouveau car elle est très vitale pour toute la nation, surtout pour la nation et l'État de l'Indonésie. L'orientation pour le développement culturel est de plus en plus nécessaire, en particulier face à une vague de changements qui tend à perturber ces orientations des valeurs. Une vague de changements qui apporte entre autres une idéologie différente des valeurs de Pancasila déstabilise les articulations de la vie, faiblit la cohésion sociale et la confiance mutuelle. La description de l'affaiblissement de la cohésion sociale est visible dans les résultats d'une étude menée par le chercheur du développement du Compass en mai. Certains répondants ont déclaré « la solidarité sociale s'est affaiblie ». Ils ont également reconnu l'affaiblissement de la tolérance chez les personnes religieuses, les ethniques et intergroupes. En fait, l'attitude de tolérance et de solidarité sociale qui est exprimée dans l'esprit de Gotong Royong ou la coopération mutuelle et la culture supérieure de l'Indonésie. Selon Compass, sans stratégie, on craint que la direction du développement culturel soit désorientée, facilement oscillée par des influences extérieures, empiaisées ou piégées dans l'attraction du pouvoir des intérêts étroits des élites et des aventuriers politiques domestiques. Ces auditeurs, c'était notre revue de presse cette semaine.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes, 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Ces auditeurs auditistes du monde entier, on écoute maintenant l'histoire d'aujourd'hui ce soir, l'élection le 27 mai. On va commencer le 27 mai 1905, la bataille de Tsushima. La bataille de Tsushima était une bataille navale et la plus décisive pendant la guerre entre le Japon et la Russie depuis 1904 jusqu'en 1905 dans le détroit de Tsushima a commencé le 27 mai 1905. Les bateaux à vapeur, la flotte impériale japonaise combinée sous le commandement de l'amiral Togo Heisashiro a détruit les deux tiers de la flotte de la Baltique de l'Empire russe sous le commandement de l'amiral Zinovy Rozhestvensky. Flotte de la Baltique russe a été détruite et seulement trois navires qui ont survécu et échappé à Vladivostok 1 en Russie. La Russie a signé un traité de paix avec le Japon. La Russie a perdu l'île de Sakhalin qui a été remise aux Japonais. La victoire du Japon sur la Russie a l'implication dans le monde international. Ceci est la première fois depuis des siècles une puissance asiatique peut vaincre une puissance européenne. En chance, le 27 mai 1964, la mort de Jawaharlal Nehru. Il est homme d'État indien, également connu sous le nom de Pandit Nehru. Le premier ministre de l'Inde du 15 août 1947 à sa mort. Jawaharlal Nehru a été retourné à sa ville natale en Inde en 1910 pour appliquer les connaissances qu'ils sont acquis au cours de l'école de droit au Royaume-Uni. Pas sa carrière juridique lui a valu ce qu'il cherchait, en sorte que Nehru a décidé de déménager dans la politique en 1919 en rejoignant le Congrès. Sa carrière au Congrès président montait finalement élu en 1928. Congrès de Nehru joue un rôle important dans le succès de négociations d'indépendance de l'Inde. Il est devenu premier ministre de l'Inde jusqu'à sa mort en 1964. En plus d'être le premier ministre, Nehru sert également en tant que secrétaire d'État pour l'Inde et doit être directement confronté au problème du Cachemire, qui jusqu'à présent n'a pas été achevé. Nehru est mort le 27 mai 1964 après sa santé détériorée au cours des années précédentes. On termine le 27 mai 2006 le séisme à Yogyakarta, l'Indonésie. Un tremblement de terre d'une magnitude de 6,3 sur l'échelle de Richter, le séisme n'a pas provoqué de tsunami, s'est produit à 5h53 heure locale. Il touche une région très peuplée d'Indonésie. Le tremblement de terre qui a duré environ 52 secondes a été suivi par plusieurs tremblements de terre avec une plus petite échelle que le séisme principal. L'épicentre a été localisé à coordonnées 8,007 degrés de latitude sud et 110,286 degrés de longitude et avec une profondeur de 17,1 km. Le tremblement de terre a tué plus de 100 000 personnes, blessé des dizaines de milliers de personnes et détruisant des centaines de milliers de maisons. Le séisme a eu lieu le matin qui a fait beaucoup de victimes. Beaucoup de personnes prises aux pièces dans la maison, en particulier les enfants et les personnes âgées. Peut-être ils n'ont pas de temps de s'échapper quand il y a eu le séisme. Ses amis, c'était notre l'histoire d'aujourd'hui, ce soir. À demain.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « Le ministre de la Santé a rapporté le progrès de l'assurance maladie nationale ou JKN à la science de l'OMS ». Le ministre de la Santé, Madame Nila F. Moluk, a présenté le progrès de l'assurance maladie nationale ou JKN de l'Indonésie à la session annuelle de l'Organisation mondiale de la santé. C'est ce qu'a rapporté le représentant permanent indonésien à Genève, accepté par l'agence de presse Antara à Jakarta jeudi. Lors de la session annuelle de l'Organisation mondiale de la santé à Genève mardi 23 mai 2017, la ministre indonésienne de la santé, Madame Nila F. Moluk, a déclaré que le Programme national d'assurance maladie, ou JKN, a récemment été suivi par plus de 175 millions de citoyens de l'Indonésie. Elle a déclaré que l'assurance maladie nationale était un engagement du gouvernement indonésien à mettre en œuvre l'agenda des objectifs de développement durable au niveau national, à savoir pour ne laisser personne dans le développement. En plus de l'assurance maladie nationale, le gouvernement indonésien a également développé diverses innovations pour assurer la disponibilité des services de santé pour tous les citoyens. Par la mise en œuvre du programme en santé depuis le début 2015, actuellement plus de 1500 professionnels de la santé sont plus de 300 centres de santé communautaires dans toute région de l'Indonésie, notamment dans les zones frontalières et les régions éloignées. Le gouvernement indonésien améliore également les services hospitaliers avec le placement obligatoire des spécialistes dans diverses régions spécifiques. En session annuelle de l'OMS, la ministre indonésienne de la Santé de l'OMS a souligné que les plans de développement national dans le secteur de la santé en ligne avec l'agenda de développement durable. Le programme de développement durable adopté par les dirigeants mondiaux, y compris l'Indonésie, en 2015. Ce programme contient 17 objectifs de 169 réalisations intersectorielles. Le ministre Nila Muluk a également souligné la nécessité d'une coopération internationale dans le traitement en cas de pandémie transfrontalière. Selon elle, cette coopération contribuera aux efforts de l'Indonésie pour renforcer le système national de santé, parce qu'aujourd'hui, de nombreuses épidémies de maladies infectieuses provenant de l'étranger, en ligne avec des progrès de la technologie de transport qui rend facilement la mobilité du peuple. Lié à cela, l'Indonésie est prête à mettre en œuvre l'évaluation interne conjointe de l'OMS de procéder à une évaluation du système national de santé en novembre 2017. L'une des réalisations importantes du gouvernement indonésien en ce qui concerne à la mise en œuvre des normes de la réalisation de la santé fixées par l'OMS et l'achèvement du plan d'action national sur la résistance antimicrobienne à travers une approche multisectorielle. Cependant, le représentant permanent auprès des Nations Unies et l'Organisation internationale à Genève, l'ambassadeur Hassan Klepp, a affirmé la nécessité de la continuation des synergies nationales, régionales et internationales dans diverses questions de la santé. Avec le courant de globalisation, comme par exemple, des épidémies de maladies infectieuses se déplacent plus facilement d'un pays à l'autre, comme dans le cas du virus Ebola et Zika. L'Indonésie doit continuer à faire preuve de vigilance pour identifier le potentiel de l'épidémie à travers de la coopération internationale, de renforcer la capacité de manutention au niveau national. L'OMS, en tant qu'organisation responsable du développement de la santé dans le monde, priorise la réalisation des objectifs dans le domaine de la santé, notamment concernant l'assurance maladie. Chers amis, c'est la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Notre émission avec le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous introduisons la plage Rongkang à Bangkalan, Madura. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, La Voix d'Indonésie. L'île Madura, en plus d'être riche en tourisme culinaire, a aussi un beau paysage naturel, dont l'un d'entre eux et la plage Rongkang à Bangkalan, Madura. La plage Rongkang se trouve au village Kuanyar West, district Kuanyar, Bangkalan, Madura, environ 35 km au sud de la ville Bangkalan. La plage Rongkang à Bangkalan a la beauté d'un endroit très intéressant à visiter. La plage Rongkang a beaucoup de beauté, comme lignes de roches le long de la plage, les marches d'escalier qui sont environ 20 à 25 mètres au-dessus du niveau de la mer, coraux merveilleux dans une variété de formes, des arbres ombragés que vous faites attarder pour profiter du panorama de plage et la brise fraîche. Le temps autour de la plage est parfois très chaud dans la journée, mais quand le crépuscule, vous goûterez à une vue incroyable, belle et exotique. Outre la vue du coucher du soleil, ainsi que la lumière des navires naviguant dans le détroit de Madura devenir très beau paysage, Blue, la lumière réfléchie de la ville de Surabaya, ajoute une belle nuit sur la plage Rongkang. Pour les touristes qui veulent profiter de la beauté de la plage Rongkang en prenant des véhicules privés, il n'y a aucune difficulté pour aller à cette plage. Pour ceux qui prennent les transports publics, les autobus publics sont disponibles pour vous amener à votre destination avec des tarifs allant de 5 000 jusqu'à 25 000 rupiah. Pour les touristes qui viennent de l'extérieur de l'île Madura, il y a deux accès, l'utilisation des bateaux pour traverser le port Kama ou passer à travers le pont Suramadu. Du port Suramadu vers la plage Rongkang au long de 12 km, on ne prend qu'environ 30 minutes. Si vous passez le pont Suramadu, un voyage est plus court, à environ 15 minutes, parce que la distance est moins de 5 km. Cette plage est appelée Rongkang, dérivée de Ngerongkang, qui signifie en langue locale creuse. Parce que précédemment, cette plage s'expérience en processus naturel, l'abrasion qui a causé les roches et coraux dans les cavités creuses et forme des récifs qui attirent sur le rivage, la plage est maintenant connue comme plage Rongkang. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. À demain! Couleurs, un programme sur les informations actuelles. Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleurs. Aujourd'hui, nous informons sur Festival Jakarta Great Sale 2017, soit le Festival Jakarta Grand Vent 2017. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia, la voix d'Indonésie. En tant que capitale de la République d'Indonésie, Jakarta est connue comme centre du gouvernement et centre économique. Si d'autres villes avec ses richesses naturelles, Jakarta comme une ville métropolitaine est supérieure avec les centres commerciaux. Jakarta a une dépense très complète de la classe inférieure, moyenne jusqu'à haut de gamme. La pleine disponibilité des centres commerciaux à Jakarta attire de nombreux touristes locaux et étrangers de visiter Jakarta. Pour augmenter le nombre de visites touristiques ainsi qu'accueillir le 490e anniversaire de Jakarta, le Festival Jakarta Grand Vent FJGV se tiendra de nouveau du 2 juin au 12 juillet 2017. Le Festival Jakarta Grand Vent 2017 devrait être l'un des efforts pour améliorer le pouvoir d'achat du peuple afin que l'économie Jakarta développe un maximum. La mise en œuvre de Jakarta Grand Vent cette fois-ci coïncide avec le Ramadan, l'Eid et les vacances scolaires, alors on espère que les gens puissent profiter d'une gamme de produits à bas prix, en particulier le besoin de base. La façon, en impliquant le marché traditionnel dans cette activité, l'un des efforts du gouvernement pour encourager les gens de rentrer au marché. Cette année, le comité organisateur
développer une méthode spéciale pour les acheteurs sur les marchés traditionnels pour un prêt, un prix de tirage au sort Festival Jakarta Grand Bank 2017 sous forme d'appareils ménagers tels que les télévisions et les réfrigérateurs. Les participants du Festival Jakarta Grand Bank 2017 se composent de 81 centres commerciaux dans 40 marchés traditionnels, soit une augmentation de 100% par rapport à l'année précédente. FGGV 2017 offre de nouvelles choses, en plus de combiner les marchés traditionnels et les marchés modernes qui étaient commencés l'année dernière. Cette année, pour la première fois, FGGV se coopère avec un certain nombre d'hôtels à Jakarta. Il y a 12 hôtels à 4 et 5 étoiles, à savoir Arya Duta, Hôtel Millennium, Alila Jakarta et l'Hôtel Indonesia Kempinski, fourniront une offre différente aux invités qui viennent. Les clients peuvent demander des tarifs spéciaux allant de rabais sur place et pour dîner en FGGV. Les clients ont également droit à une carte de client pour avoir une chance d'obtenir un don de FGGV. Le Festival Jakarta Grand Vente propose également des réductions allant jusqu'à 70%, voire plus. En général, la réduction est jusqu'à 70%. Au moment où la vente diminue, il y a la réduction supplémentaire, environ 10%. La vente diminuée est tenue de 20h à 24h. Les réductions massives sont données aux produits des articles de base, tels que des jeans ou des vêtements qui sont normalement produits en grande quantité. En plus des programmes de dépenses, le Festival Jakarta Grand Vente 2017 mobilise également des activités sociales. Collaborer avec la Croix-Rouge indonésienne de Jakarta, le comité organisateur de FGGV tiendra une action de masse du don de sang dans 36 centres commerciaux à Jakarta. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. À demain.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, bonjour chers auditeurs et auditrices de la voix d'Indonésie des quatre coins du monde. Nous vous rencontrons encore avec notre rubrique distraction qui vont vous plaire, c'est-à-dire la couleur de la musique indonésienne. Avec moi, Yubi Suryanto qui va vous accompagner pendant environ 15 minutes d'écouter et enjouir les belles chansons originales indonésiennes. Pour animer le mois du Ramadan de 1438 du calendrier Hijri, nous allons vous présenter les chansons indonésiennes islamiques. Ce soir, nous vous présentons un chanteur en tant que compositeur spécial de la chanson islamique qui s'appelle Honorifique Lil Firdaus, au connu avec le surnom Opik. Il est né à la ville Jember, Jaffa de l'Est, au 16 mars 1974. Sa première composition, qui est très connue, intitulée Tombouati. Cette chanson est chantée dans la langue jaffanaise, qui contient cinq choses à traiter l'anxiété du cœur. Chers auditeurs, écoutons maintenant cette chanson de Opik intitulée Tombouati. Bonne écoute.
Perkara ini kape sopo bisa ngelakoni muki-muki Gusti Allah nyembatani.
Pour cette bascule du chanteur de Jehova, la septième fois, c'est la charme. Après 6 albums dans 15 ans, Opeka finalement a réussi à produire l'album It's en 2006 avec Istighfar. Un ratio qui l'album est allé double platine aux 300 000 exemplaires quelques mois après sa sortie. Avoir un succès comme celui-ci ne sera pas long avant que d'autres voteraient dans l'obscurité relatif à trouver leur véritable vocation aussi bien. Dans un premier temps, il publie un single Mahamlihat qui est chanté en duo avec Rachel Amanda. Le single a également été utilisé comme le film de télévision thématique chanson intitulée Manohara. Comme une chanson à succès de l'album, Destin avait chanté ensemble avec Melly. Chers amis, écoutez deuxième chanson de Opik intitulée Destin. Bonne écoute.
Dihempas gelombang, dilemparkan angin, terkisah, ku bersedih, ku bahagia.
Di indah dunia yang berakhir sunyi, langkah kaki di dalam rencananya. Semua berjalan ada luka, coba tersenyumlah. Bila mungkin tawa, coba bersabarlah.
Karena air mata tak abadi, akan hilang dan berganti.
Hilangkan berganti.
Bila mungkin hidup hampa yang dirasa, mungkinkah hati merindukan dia? Karena hanya dengannya hati tenang, damai jiwa dan dada. Dan tertakdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi. Ku berserah.
Vous êtes toujours à l'écoute de la voix d'Indonésie diffusée à Jakarta. Chers auditeurs, en même temps, nous terminons le programme ce soir. On écoute deux dernières chansons de Opik intitulées Assalamualaikum et Bila Waktu Telah Berakhir. Bonne écoute et au revoir.
Hilang dan pergi meninggalkan diri. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu dunia dipenuhi dengan hiasan skala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil teman sejati jati hanyalah amal bila waktu telah terhenti teman sejati tinggallah sepi bila
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes, 15 150, 9 525 et 11 785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hari
salam hai saudaraku. Semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua. Semoga hidup jadi bahagia. Dalam hidup tiada sempurna. Kadang hilang, kadang terlupa. Janganlah putus asa. Ampunan Allah selalu.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes, 15 150, 9525 et 11 785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.